depuis Graz, effectivement, donc depuis 10 ans, il y a eu pas mal d'évolutions en fait dans le monde œcuménique européen. En fait, il y a eu un double mouvement un peu contradictoire. Il y a eu d'un côté des accords très importants qui ont été signés entre les églises chrétiennes en Europe. Par exemple, la déclaration sur la justification entre les églises protestantes et catholiques en 1999. En 2001, à Strasbourg, il y a eu la signature de la Charta Ecumenica, qui est le seul document adopté par toutes les églises chrétiennes en Europe. Et puis cette année, il y a eu un document très important qui a été adopté en Allemagne. Toutes les églises chrétiennes allemandes se sont mises d'accord pour se reconnaître mutuellement le baptême. Mais d'un autre côté, ce que tout le monde constate, c'est que avec la globalisation, avec l'ouverture de l'Europe, etc., il y a aussi un mouvement identitaire au sein des différentes confessions. Cet été, en particulier, la Congrégation pour la doctrine de la foi a sorti un texte interprétant de façon assez exclusiviste pour beaucoup d'églises les documents de Vatican II sur les relations entre l'Église catholique et l'Église du Christ. Au sein de la communion anglicane, il y a eu aussi pas mal de tensions autour de la communauté homosexuelle. Et dans les églises orthodoxes, c'est le même mouvement. Les églises orthodoxes ne souhaitent pas être fondues dans un ensemble où Moscou dominerait ou Constantinople dominerait. Elles sont toutes un petit peu sceptiques par rapport à une communion plus intense entre les églises orthodoxes. Et c'est pour ça que Sibiu est important, parce que ça sera l'occasion de faire le point sur ce double mouvement.
Plus de 2000 délégués, 160 journalistes, des participants de haut niveau, mais qu'est-ce que l'on attend au juste ?
On s'attend à ce qu'à Sibiu, par exemple, toutes les églises se mettent d'accord pour fêter chaque année ensemble une journée pour la sauvegarde de la création, la sauvegarde de l'environnement. Ça serait une façon de consolider les liens qui existent déjà. Et bon, il va y avoir des célébrations aussi, il va y avoir aussi des discussions sur l'Europe. Et là, les chrétiens vont insister sur la référence au christianisme dans le travail de l'Union européenne.
Finalement, on parlera peu de l'unité, mais plutôt du témoignage commun. Pourquoi un tel choix ?
Beaucoup de personnes pensent que c'est grâce à la réconciliation entre chrétiens, mais aussi entre chrétiens et musulmans, qu'on pourrait peut-être avancer sur des questions aussi politiques et notamment de l'intégration des Balkans au sein de l'Union européenne. Et en ce sens, c'est important que c'est la première fois qu'il y a un événement œcuménique de cette importance dans un pays orthodoxe.
Oui, mais justement, il y a encore des questions qui fâchent, comme la restitution des biens confisqués à l'Église catholique sous les régimes communistes, ou encore la question du prosélytisme qui avait été très débattu à Graz il y a 10 ans.
Je dirais qu'aujourd'hui, on en parle moins parce que justement, un certain nombre d'accords ont été signés entre-temps. J'ai le sentiment que ce qui était crucial en 97 l'est moins aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, il y a des sujets qui fâchent, comme la question de l'homosexualité, par exemple. Là, il y a vraiment une sorte d'impossibilité de dialogue entre, d'un côté, les églises orthodoxes russes, par exemple, ou grecques, et d'un autre côté, les églises luthériennes suédoises, danoises, etc. Ce qui risque de se produire, comme dans la plupart de ces rassemblements, on ne va pas vraiment en parler dans les documents officiels. Par contre, il y a une sorte de forum qui se réunit autour de cet événement. Et là, ça sera l'occasion de débats, de discussions autour de, notamment de la question de l'homosexualité.